l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, nous sommes ici pour une nouvelle édition de l'écho des solidarités internationales et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un que je ne connais pas, n'est-ce pas, Michel ? Michel Collomb, donc, qui est le coordinateur de l'antenne Occitanie de l'Appel. Voilà, il va vous expliquer, parce que l'Appel, c'est vrai que c'est tout un programme quand on dit ça, et il va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, et je vais lui demander même de nous raconter un petit peu l'origine de tout ça. Voilà, bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Voilà,
bonjour,
avec grand plaisir de te recevoir. Et donc, voilà, Appel, c'est quoi ? Ça vient d'où ?
Alors, l'Appel, c'est... Ça veut dire un appel, hein, c'est-à-dire c'est une association qui s'est donnée pour but de répondre à des appels en provenance d'associations des pays, disons des pays où il y a de gros problèmes économiques, des problèmes d'éducation, des problèmes de misère et parfois même de pénurie totale de nourriture, etc. Donc c'est à l'origine de notre nom et nous travaillons également donc toujours. Mm-hmm. Ça veut dire que nous travaillons toujours avec des associations locales, des partenaires, ce qui nous permet que nous choisissons, c'est-à-dire que nous testons au niveau en particulier de la gestion financière et ça nous permet d'être, d'économiser pas mal de temps et d'argent, puisque nous reposons en quelque sorte sur ces associations partenaires.
Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que le mot est très évocateur, hein, appel. Donc ça évoque justement un départ, un décollage, un essor, etc. Et que bon, le public visé, les personnes visées sont au niveau international des personnes en difficulté, en souffrance, en misère, etc.
Et surtout des enfants.
Et surtout des enfants.
Principalement des enfants, puisque nous pratiquons des parrainages, des parrainages collectifs, des parrainages individuels. Ouais. Et nous menons aussi des projets, on va en reparler probablement dans le détail, des projets plus techniques, grâce à la participation de professionnels qui sont maintenant souvent des retraités, mais qui continuent à vouloir être actif et avec qui on peut mener des actions qui sont un peu complexes. Par exemple, là, au Rwanda, on a établi des réseaux de diffusion, de répartition d'eau, d'eau potable. On le fait également à Madagascar en ce moment. Voilà, donc il n'y a pas que des médecins, il y a pas mal de médecins dans notre association, mais il y a aussi des gens qui ont des compétences diverses, des enseignants, des ingénieurs, voilà, et qui nous aident, voilà.
dans les projets. Alors, justement, on parlait de ça. Alors là, on a parlé, j'ai entendu Rwanda, j'ai rencontré
Madagascar.
Madagascar. Oui. Alors, d'abord, appel, c'est national ou c'est, là, c'est l'antenne régionale, si j'ai
Alors, c'est l'antenne régionale qu'on a appelée, qui d'abord était uniquement Montpellier-Rennes, mais qu'on a ambitieusement appelée antenne Occitanie.
Occitanie, oui, tout à fait. Non, mais c'est pas non, c'est évocateur.
Ça a été une habileté qui a été payante, en quelque sorte.
D'accord.
Puisque la région Occitanie nous a accordé une importante subvention qui nous a permis de mener à bien ce projet. Mmh. Alors, l'appel, donc, c'est donc une association nationale. Qui a 5 ou 6 antennes locales. J'ai les noms de ces associations locales. Il y en a une dans la Durance, qui s'occupe plutôt du Tchad. Il y en a une dans le Morbihan, qui s'occupe plutôt de la République du Congo. Il y en a une en Île-de-France, qui fait évidemment qui est la grosse partie de l'association et des militants, qui intervient dans divers pays. Il y en a une dans l'Isère, qui s'est spécialisée dans les adductions d'eau, justement, au Rwanda, puis à Madagascar. Et puis, il y en a, comme la nôtre, qui s'occupe du Burkina Faso, prioritairement, mais aussi du Togo. Et maintenant, pour des raisons que je vais expliquer, nous nous tournons vers Madagascar, où il y a énormément à faire également. Et nous allons développer une cantine, une seconde cantine avec notre partenaire local, qui est une communauté protestante des Sœurs de Mamré. Voilà.
D'accord. Alors, en fait, Appel Madagascar a été antérieur à vos projets ensuite que vous dites, dont vous parlez, Afrique même, non ?
Le point de départ, c'est en 1968. Oui. Donc, vous voyez, ça fait plus de 50 ans.
Oui, ça fait longtemps.
Voilà. C'est une des plus vieilles associations qui est survécue.
Tout à fait.
En 68, c'était au Vietnam que les choses se passaient, car c'est l'époque où les Américains bombardaient les villes et les campagnes. Là, on a voulu réagir. Et un certain nombre de médecins ont tenté d'aller, aussi bien au Vietnam Sud qu'au Vietnam Nord, d'aller aider,
les populations.
Soigner les populations, et en particulier les enfants. Voilà. Donc c'est au départ le Vietnam, puis ensuite il y a eu de grosses opérations à Madagascar, en particulier avec des soutiens de la communauté européenne, des gros financements qui nous ont permis de refaire tout le réseau des hôpitaux de brousse, en quelque sorte, à Madagascar, qui recevait les enfants en particulier. Et on intervient maintenant régulièrement, enfin je veux dire de façon prolongée, dans 10 pays.
Alors,
je peux citer ces pays, le Vietnam, le Tchad, le Rwanda, le Pérou, Madagascar, Haïti, la République du Congo, le Burkina Faso, El Salvador et le Togo.
D'accord.
Voilà. Donc il y a 10 pays où on est avec des partenaires fiables, avec qui nous avons des projets qui se renouvellent régulièrement.
D'accord. Et là, vous avez cité Haïti, et je ne sais pas, en ce moment, ça doit être assez terrible ce qui se passe là-bas.
Alors c'est
le
problème.
Il faut être courageux pour intervenir.
Et oui, c'est une grande difficulté que nous rencontrons. Heureusement, on était dans une petite île qui était un peu à l'ouest d'Haïti, et où, semble-t-il, les mafias haïtiennes ne sont pas encore trop présentes.
Tout à fait, voilà. C'est protégé.
Mais on a dû renoncer effectivement à pas mal d'activités. Alors, dans cette île, on développe la natation chez les enfants, chez les jeunes. Donc, c'est minime, mais c'est quand même important pour une île de savoir que les habitants savent nager.
D'accord. Mais c'est vrai que ça semble dérisoire, mais je vois par exemple, pour assez bien connaître l'Afrique de l'Ouest, je suis toujours très étonnée du peu de gens qui savent nager. De peu d'Africains qui savent nager. D'abord, et même quand on voit, ce sont des champions vraiment dans, sportifs, etc. Ouais. Mais il y en a très peu dans la natation. Ouais. C'est curieux. Hein.
Oui, c'est étonnant.
Et ce n'est pas dérisoire. Et en plus, ce n'est pas inutile, effectivement, d'apprendre à nager. Quoi.
Oui, mais bon... Vous savez, c'est des phobies qui s'institutionnalisent, qui sont souvent liées avec un tabou. Hein. Mm-hmm. Je pense, par exemple, je me rappelle en Tanzanie, les gens prétendaient qu'ils ne mangeaient pas de poisson parce que c'était tabou. Mm-hmm. Ouais. Il y avait quand même une frontière maritime qui était de plusieurs centaines de kilomètres.
C'est quand même un peu, ça semble quand même un petit peu étrange de ne pas se nourrir de poisson quand on est vraiment fournit un poisson. Donc. Ouais. Donc, quand même, là, vous intervenez dans beaucoup de pays. Et donc, vous nous l'avez expliqué, ce sont quand même les régions, puisque là, vous êtes Occitanie, nous sommes en Occitanie. Ce sont les régions, chaque région qui gère un petit peu ce qui se passe dans le pays, quoi. Dans chaque pays qu'elle parraine, enfin, qu'elle aide. C'est ça, hein ?
Oui. Alors, ce n'est pas exclusivement une antenne.
Une antenne,
mais,
oui.
Il peut arriver qu'il y ait une coordination entre plusieurs antennes pour mener à bien des projets importants. Mmh. Par exemple, on a créé à Lomé, au Togo, un lieu où l'on peut étudier les capacités auditives des enfants et ensuite pouvoir les orienter vers des écoles qui sont un peu plus spécialisées pour les enfants sourds. Et là, on a acheté une maison pour servir de lieu d'accueil. Et là, ça nécessitait quand même un investissement important et plusieurs antennes ont collaboré.
Voilà. D'accord. Oui, parce que par exemple, c'est vrai qu'on parle des déficits auditifs et c'est vrai que dans ces pays-là, du coup, très rapidement, dès qu'on souffre d'un handicap, on est un peu mis de côté. Il y a pas, par exemple, quand on sait que c'est important pour les Africains, pour les petits Africains d'aller à l'école, par exemple, etc. Oui. Et que ce handicap auditif peut être une raison de mise à l'écart, d'exclusion, alors que l'enfant lui-même ne demande que ça, quoi. Donc c'est quand même un très beau projet.
Oui, alors ça, c'est effectivement... un grave problème. Nous, dans les enfants dont nous nous sommes occupés au Burkina Faso pendant des années, pendant près de 20 ans, on faisait un parrainage d'enfants concernés par le VIH. Il y avait en plus des enfants qui avaient des problèmes d'audition. Mmh. Et donc, ça renforçait la discrimination dans leur groupe d'enfants et dans les écoles aussi. Mmh. C'était un problème, c'était un vrai problème. Ouais.
Donc là, et voilà. Et donc, quand vous identifiez les problèmes, comment c'est au gré des rencontres que vous faites, comment vous dirigez vers un type de population dans un pays, comment ça fonctionne?
Alors, c'est souvent des associations avec qui on a déjà travaillé et qui parfois portent de nouveaux projets. Mmh. Par exemple, je crois que tu connais Christine Cafando.
C'est moi qui l'ai présenté bien, à Joël.
Donc,
oui. Sais que c'est ouvrir des rencontres comme ça. Ouais.
On a donc aider son association AED à se développer. On a pris en parrainage un certain nombre d'enfants concernés par le VIH, puisque la particularité de son association, c'était d'accueillir des enfants et des mères, souvent, qui étaient
en grand danger
d'isolement, parce qu'elles étaient réputées... frappés par le VIH, et donc on les a aidés. Et là, l'association de Christine s'est développée, elle a lancé également un nouveau local, qui est beaucoup plus spacieux. Et
que vous avez soutenu également.
Voilà, qu'on a soutenu et qu'on essaye toujours de soutenir. Voilà. Et l'idée, c'est qu'elle puisse ouvrir un centre de santé local dans, une régi- dans un quartier de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, Burkina où il y a presque 2 millions d'habitants, où elle puisse créer un centre de santé pour les enfants, voilà, avec des vrais médecins.
Alors, c'est vrai qu'Appel, quand même, l'origine, si j'ai bien compris, l'origine, c'était quand même plutôt un groupe de médecins. Voilà, c'était plutôt vers le médical que ça a été ouvert par rapport à ce que tu racontais du Vietnam.
Oui,
quoi, hein, voilà.
Oui, oui, c'était au départ, c'était surtout des médecins.
Médecins.
Y compris des médecins montpelliérains.
Oui, hein, oui.
Et il y a eu d'ailleurs pas mal d'interventions de médecins montpelliérains. On parlait de lors de la guerre, la guerre de comment dire
de Rwanda.
Non, pas du Rwanda, la guerre en Europe, la guerre des pays, des pays, la Serbie, etc., les régions de ces, voilà, je retrouve plus
de l'Europe de l'Est,
De l'Est, et là, on a eu des interventions et des échanges avec des médecins, des formations avec des médecins locaux. Qui ne savaient pas comment gérer des blessés de guerre. Quoi.
Voilà. Tout à fait. Donc, ce que je constate quand même, c'est que l'association appelle, donc c'est un appel, mais un appel aussi pour les adhérents, enfin pour les militants, à s'adapter un petit peu aux situations. Quand vous arrivez dans un pays, voilà, il y a quand même de votre part une adaptation et un projet donc, à faire en accord avec les personnes du pays. Donc ça, je retiens ça parce que moi, je suis très sensible à cette notion hein, de partenariat plutôt que d'assistanat. Quoi. Hein, donc c'est la vocation d'appel.
Voilà, c'est effectivement chaque bénévole doit s'adapter un petit peu à cette à ce projet, hein, tenir compte du projet de l'association qui nous accueille. Mais parfois, par exemple, il y a des gens de l'appel qui ont découvert un petit village qui s'appelle Karma et où ils ont pris en charge pratiquement la totalité des aspects de développement de ce village. C'est-à-dire les écoles, mais aussi l'agronomie, les nouvelles techniques de traitement des plantes, etc. Et voilà. Et malheureusement, ce village, il a été attaqué par des miliciens il y a quelques mois, juste avant les vacances de l'été dernier. Et il y a eu 150 morts.
C'est terrible.
Et évidemment, on a dû évacuer tous les enfants, etc. Donc, le village est à l'abandon. On n'a pas le droit d'y retourner. Les enfants, eh bien, ils font partie des 2 millions d'enfants qui ont été obligés de se déplacer dans le reste du Burkina.
Qui sont des déplacés. Donc Michel, comme on a encore pas mal de choses à se dire, je pense qu'on va passer, passer à une pause musicale.
D'accord.
Et comme nous avons parlé tout à l'heure de Madagascar, que je suis très curieuse parce que je ne connais pas trop cette musique-là, je connais la musique de l'Afrique de l'Ouest, mais pas celle-là. Donc le morceau qu'on va passer... c'est un groupe malgache qui s'appelle Saramba, et le morceau s'appelle Alamino. Bonne écoute et à tout à l'heure. Eh bien, nous voilà de retour. Nous étions en bonne compagnie à Madagascar avec des super musiciens et des rythmes entraînants. Et je me retrouve avec mon invité, donc Michel Colomb, qui représente l'association
Appel.
Appel, voilà, un très beau nom et très belle évocation d'un envol. Donc Michel, on avait parlé pas mal, un petit peu de l'historique, un peu de votre fonctionnement, un peu comment, un peu à peu...
Parenthèse.
Voilà, ouais. Voilà, parenthèse, comment de nombreux pays finalement sont bénéficient du soutien et d'un partenariat, ce qui est très intéressant, puisqu'on a même parlé de, ben, d'autres pays, donc le Tchad, dans le Rwanda, etc., etc. Voilà. Et alors, j'aimerais savoir où vous en êtes et quels sont les projets.
Alors, les projets, bien sûr, on ne va pas laisser tomber le Burkina Faso quand même, hein, puisqu'on y est...
C'est pas le moment, je dois
on
dire.
On y est depuis une vingtaine d'années.
Oui. Hein. Oui.
Moi, j'ai fait plusieurs missions et on a des rapports personnels très serrés avec les animateurs de nos partenariats. On va donc... Le parrainage des enfants concernés par le VIH, il va s'arrêter là, à la fin du printemps, parce que les enfants, maintenant, ont plus de 20 ans.
Oui, c'est ça.
Ils ont pris leur... il fallait les habituer à prendre leurs médicaments. Et maintenant, c'est réglé. Et je pense qu'ils sont partis dans la vie... plus ou moins facilement. Certains ont un gros bagage de maux, de maladies, mais bon, on va l'arrêter. En revanche, on va continuer à aider Christine et son association AED, Espoir pour Demain. Et puis, on a également un parrainage pédagogique, c'est-à-dire qu'on prend en charge la totalité des frais d'école, parce que les écoles sont payantes. Hein,
tout est payant
Burkina.
Là-bas.
On prend en charge.
Un sirobic est payant.
Voilà.
Un cahier aussi, oui. Tout est payant.
Là, c'est une personne qui avait créé autour d'elle un parrainage d'enfants et on paye pour leurs inscriptions scolaires chaque année. Et également, quand il y a des succès, eh bien, évidemment, on est porté à être plus généreux pour prendre en charge les inscriptions universitaires. Et voilà, on a eu deux grands succès au bac, là, et on était très heureux.
Super,
très
heureux félicitations.
De voir, ben oui, très heureux de voir qu'ils allaient continuer leurs études et que ce serait peut-être bientôt des gens qui auraient un certain poids dans la société du Burkina. Mais on ne peut plus aller au Burkina. C'est pas recommandé par le ministère des Français des Affaires étrangères. Et puis, il y a toujours le risque d'être pris en otage ou bien d'être coincé dans un attentat, etc. Donc, on a renoncé à y aller. Et on se tourne vers Madagascar, avec qui on a déjà travaillé. Et on a donc ce partenariat avec une communauté de sœurs, c'est paraît-il très, très rare, des sœurs protestantes qui ont créé une cantine déjà dans la banlieue de Tananarive et qui nous proposent de construire une cantine et de l'organiser dans une zone rurale qui est à une centaine de kilomètres de Tananarive. Donc on a dit d'accord. Et on essaye de chercher de l'argent pour pouvoir mener à bien non seulement la construction, hein, et là c'est quand même pas donné, et puis des activités du genre nutrition, du genre hygiène, et puis culture, tout simplement, hein, pour que les enfants aient la possibilité non seulement de manger au moins une fois par jour, mais puissent rester tranquilles ensuite, avoir accès à une bibliothèque, etc. Et aussi recevoir des informations sur ce qu'est la bonne nutrition, sur ce qu'est l'hygiène, toute chose qui évitera la déscolarisation, justement, parce qu'il y a très souvent des enfants qui sont obligés de s'absenter, de ne pas pouvoir aller à l'école, parce qu'ils sont malades.
Oui, puis un enfant qui n'a rien à manger, ou qui ne mange pas suffisamment, et qui doit encore faire la route, enfin faire encore des kilomètres quelquefois, etc., c'est compliqué aussi pour les petits comme ça.
Ouais. Absolument. Donc voilà, on est à la recherche d'environ 60 000 euros pour ce projet important. Je pense qu'entre les financements propres à notre partenaire sur le territoire malgache et la mobilisation de tous nos financements, là on vient d'écrire une lettre en direction de la présidente de notre association, qui est justement une ORL qui s'occupe d'audition. On espère qu'on va trouver cette somme dans le courant de l'année 2024.
On va croiser les doigts.
Parce on va croiser les doigts. Voilà. Ce n'est pas facile en ce moment.
Non, c'est facile pour personne, mais on sait aussi que Madagascar, quand même, est en train peu à peu de sombrer encore dans une pauvreté encore pire que celle d'il y a quelque temps. Donc, c'est important de vous reporter à nouveau vers Madagascar.
En fait, ce projet de deuxième cantine, on l'avait proposé il y a 3 ans, au moment de la pandémie, parce qu'on savait que le sud de Malgache était dans un grave péril. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à l'époque. Et donc, on leur avait dit d'essayer d'agrandir leur cantine, même si elle n'était pas au bon endroit. Et au bout de 2 ans, elles nous ont rappelé en nous disant « On va la faire, cette cantine, et on va la faire à l'endroit où on a une ferme. » Donc, ce sera des économies qui seront faites avec la proximité. Et ça concernera les enfants de plusieurs écoles rurales. Voilà. Et donc, on est très contents qu'il y ait eu une suite à notre souci et que les choses se mettent en route.
Comme quoi, quand on crée des liens, les choses prennent sens avec l'histoire, ça peut marcher.
Absolument.
Alors qu'on va croiser les doigts pour cette cantine, en tout cas. Ouais. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, Michel, c'est si les gens sont intéressés, soit pour adhérer, soit pour venir rencontrer, soit pour faire un financement, quels sont les liens, quels sont les contacts qu'ils peuvent avoir?
Voilà. Alors, évidemment, on peut contacter directement le siège de l'association qui est à Paris.
À Paris, oui.
89 avenue de Flandre, Flandre sans S à la fin. Et on peut également consulter le site qui est www.lappel.org et on trouvera beaucoup d'informations. Non seulement sur les activités actuelles, mais également sur les antennes et les contacts.
Voilà, les activités locales des antennes aussi.
Et moi, je suis à la disposition, évidemment, des gens qui veulent des renseignements. Donc, mon mail, c'est michel.colomb, COLOMB, 62@gmail.com.
Voilà, donc Michel Colomb. 62@gmail.com, c'est
exactement,
ça. Voilà,
exactement.
D'accord. Ou alors, et le site pour consulter un petit peu, justement, pour voir un peu la diversité, la globalité des choses.
On essaye de le renouveler régulièrement.
Voilà. Et si vous voulez faire un don, ben, vous adressez directement à Michel Colomb.
Voilà, vous pouvez vous adresser parce qu'on a une comptable locale.
D'accord, locale pour aider à cette... Ouais. D'accord, ben, Michel, merci beaucoup. J'ai appris, pensais vous connaître à l'appel, je ne savais pas tout non plus, donc j'ai appris aussi des choses aujourd'hui. On souhaite bon vent et surtout bonne construction à cette cantine et pour les enfants, pour tous les enfants de Madagascar qui sont concernés. Et puis à très bientôt. De toute façon, vous le savez, Michel, vous le retrouverez sur l'antenne sous peu, je suppose. Voilà. Donc, simplement 2 informations. La première, c'est pour vous annoncer donc, un Gazette Café demain, le 26 mars de 20h à 21h au Gazette Café. Donc le thème c'est l'engagement citoyen, donc un thème important, actuellement peut-être même encore plus, au moment où peut-être certains perdent le sens des valeurs. Donc l'engagement citoyen demain de 20h à 21h au Gazette Café. Et sinon, c'est pour vous annoncer aussi la Semaine internationale contre l'apartheid israélien, qui a lieu. Alors, elle commence aujourd'hui, mais c'est un petit peu tard pour vous annoncer. Il y avait une réunion, mais c'était au campus du Triolet à midi sur le sionisme et l'apartheid. Et sinon, demain, le 26, il y aura à Paul Valéry, à 18h15, dans l'Amphi 7, il y a une conférence sur le thème « Les Palestiniens de 48 face à l'apartheid en Israël ». Et le 28, à la Carmagnole, qui est partie prenante aussi de cette manifestation, un thème aussi qui est là et est vraiment objet de réflexion, y compris à moi-même, Israël à la CPI, combattre l'impunité, les forces et les limites du droit international. Et ça pose vraiment question par rapport au drame auquel nous assistons de part et d'autre. Et puis le 30 mars, il y aura des petites animations, c'est le dimanche... culturel. Voilà. Et tout ce que je vous ai dit, parce que je vous l'ai dit rapidement, si vous avez voulu voir les détails, il faut que vous alliez sur la page Facebook de l'association France Palestine Solidarité 34, donc AFPS 34, page Facebook, qui vous donnera les détails de cette semaine internationale contre l'apartheid israélien, qui est un sujet d'une actualité brûlante. Voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.